Ce podcast abordera le sujet de la grande ancienneté de l'Égypte ancienne, un chapitre extrait du livre de Mustapha Gadala intitulé « La culture de l'Égypte ancienne révélée, deuxième édition ». Ce podcast comprend quatre sujets. Premier sujet, la vallée mouvante. L'Égypte est, et était, l'une des régions les plus arides du monde. Le désert occupe plus de 90% du territoire. Seulement 5% environ de ce vaste pays sont habités le long des rives du Nil et de ses affluents. Cette vallée fertile du Nil constitue une bande de 11 à 15 km de large. Le Nil coule à travers l'Égypte du sud vers le nord, dû à la topographie en pente du pays qui descend vers la mer Méditerranée. Au nord du Caire, le Nil se divise en plusieurs cours d'eau qui constituent le delta, c'est-à-dire un large éventail de campagnes verdoyantes et fertiles qui recouvrent 15 500 km². Le fleuve, le Nil en Égypte, recevait et continue de recevoir 90% de ses eaux durant une crue de 100 jours chaque année, comme l'a indiqué Hérodote dans Histoire 2, 92, où il déclare ce qui suit. Le Nil commence à grossir au solstice d'été et continue ainsi durant 100 jours. Et par quelle raison, ayant cru ce nombre de jours, il se retire et baisse au point qu'il demeure petit l'hiver entier et qu'il reste en cet état jusqu'au retour du solstice d'été. La crue du Nil résulte de la saison des pluies en Éthiopie qui érode le limon des hautes terres de ce pays et l'emporte vers l'Égypte, le long du Nil bleu et d'autres cours d'eau. Une quantité réduite d'eau arrive en Égypte par le Nil blanc, qui prend sa source en Afrique centrale. Celui-ci ne charrie aucun limon, d'où le nom blanc, qui signifie clair. Les eaux vives et boueuses du Nil bleu ralentissent à chaque saison quand elles atteignent Assouan. Ce ralentissement provoque l'accumulation du limon sur le fond. Cela entraîne l'élévation progressive du lit du fleuve. Le niveau des terrains qui bordent le fleuve s'élève alors à des degrés divers, selon sa distance vers l'aval et la topographie changeante du territoire. Cela a pour conséquence de provoquer la montée de la nappe phréatique, car la surface de l'eau s'élève avec le relief de la vallée du Nil et des territoires environnants. À partir de là, nous pouvons constater que la hauteur de la vallée du Nil s'accroît chaque année à cause des crues annuelles durant l'été. Petit à petit, ces accumulations s'ajoutent au fil des ans. Quand les eaux du Nil arrivent à Assouan, elles commencent à ralentir, ce qui provoque le dépôt du limon. Afin de contrôler les crues au niveau d'Assouan, la vieille digue de la ville fut construite voici des siècles. Étant donné que la sédimentation est un phénomène continu, il a été nécessaire de surélever la digue à plusieurs reprises. À Esna, par exemple, les dépôts annuels négligeables de 6 mm environ de limon du Nil ont été capables, au bout de 2000 millénaires, de pratiquement enterrer le temple de la cité. La ville moderne d'Esna se trouvant maintenant au-dessus du toit du temple. Ce temple fut construit sur des temples antérieurs à cause de l'accumulation des dépôts annuels de limon. Plusieurs autres emplacements à travers l'Égypte révèlent l'impact du problème de la sédimentation sur différents temples parvenus jusqu'à nous, tels que ceux d'Edfou, Louxor et Abydos. Même très à l'intérieur des terres et loin du Nil, nous trouvons un autre exemple à Abydos, où la structure imposante et très ancienne, appelée l'Osiréion, est située à côté du temple d'Osiris, datant du Nouveau Royaume, et qui fut construit par le roi Séti Ier, 1333-1304 avant notre ère, et son successeur, Ramsès II. Cette structure, l'Osiréion, est situé beaucoup plus bas que le temple d'Osiris du Nouveau Royaume et se trouve en partie submergé par la nappe phréatique. Les fondations de l'Osiréion sont situées plusieurs mètres au-dessous du niveau actuel de la nappe phréatique, qui est montée d'environ 7 mètres depuis l'époque du Nouveau Royaume. Il faut remarquer que beaucoup de pharaons ont inscrit leur nom sur des monuments qu'ils n'ont jamais construits. Aussi, ce n'est pas parce que Séti Ier a inscrit son nom sur quelque partie de l'Osiréion qu'il en est le constructeur. L'énorme différence de hauteur entre le temple d'Osiris et celui de Séti Ier, ainsi que la grande différence de style entre les deux, laisse penser, à de nombreux spécialistes, que l'Osiréion est un monument beaucoup plus ancien. La preuve de l'Osiréion concorde avec celle de Gizeh et ailleurs pour avancer que la civilisation égyptienne est beaucoup plus ancienne. Deuxième sujet, le point de départ. Hérodote a rapporté qu'il avait été informé par des prêtres égyptiens que le soleil s'était levé deux fois à l'endroit où il se couche maintenant et couché deux fois à l'endroit où, maintenant, il se lève. Cette déclaration indique que les Égyptiens anciens ont compté leur histoire durant plus d'un cycle du zodiaque de 25 920 ans. Le cycle du zodiaque de 25 920 ans résulte de la rotation irrégulière de la Terre qui ne tourne pas de manière exacte autour de son axe, mais plutôt légèrement comme une toupie. Des explications concernant les fondements de ce phénomène sont fournies au chapitre 11. Ce mouvement est appelé précession. Cette oscillation de la Terre sur son axe fait que l'équinoxe de printemps se produit chaque année en décalage progressif avec les constellations du zodiaque. La précession des équinoxes, au travers des constellations, donne les noms des 12 ères du zodiaque. Il faut environ 2160 ans à l'équinoxe pour parcourir un signe du zodiaque. Par conséquent, il faut 25 920 ans à l'équinoxe de printemps pour traverser l'ensemble des constellations des 12 signes du zodiaque. Ce cycle complet est appelé la grande ou la complète année. Par conséquent, l'affirmation d'Hérodote au sujet du coucher et du lever du soleil signifierait que les Égyptiens comptaient à rebours leur histoire sur plus d'un cycle complet du zodiaque. Les cycles correspondant aux précessions de l'équinoxe ont été observés et enregistrés dans l'Égypte antique. Voir le chapitre 11 intitulé Astronomie. Le cycle actuel du zodiaque, appelé la grande ou la complète année, a commencé avec le signe du lion comme suit. Ère du lion, 10 948, 8 788 avant notre ère. Ère du cancer, 8 787, 6 628 avant notre ère. Ère des gémeaux, 6 627, 4 468 avant notre ère. Ère du taureau, 4 467, 2 308 avant notre ère. Ère du bélier, 2307, 148 avant notre ère. L'histoire de l'ancienne Égypte s'étend sur un cycle complet du zodiaque de 25 920 ans, plus une portion de cycle comprise entre 10 948 ans avant notre ère et la fin de l'ère du bélier, quand l'Égypte perdit son indépendance. Donc, le début de l'Égypte antique remonte à 25 920 plus 10 948 moins 148 égale 36 720 ans. Nous confirmerons cela par d'autres calculs un peu plus loin. Que la civilisation de l'Égypte antique ait plus de 36 000 ans et que par conséquent la vie sur Terre ait le même âge va à l'encontre des croyances chrétiennes et occidentales. Celle-ci considère que la vie sur la Terre est âgée d'environ 5000 ans. Le résultat est qu'il a été répété constamment que le pharaon Ménès, environ 31e siècle avant notre ère, unifia l'Égypte et que ce fut le début de la civilisation de l'ancienne Égypte. Cette assertion arbitraire, répétée et infondée au sujet du pharaon Ménès qui marquerait le début de l'histoire de l'ancienne Égypte, est contraire aux preuves. Les auteurs grecs et romains de l'Antiquité, basant leurs récits sur des informations de première ou de seconde main, recueillies à partir de sources égyptiennes, avancent une ancienneté très supérieure de la civilisation égyptienne que celle qui avait été établie par les chercheurs. La chronologie des pharaons de l'Égypte ancienne, depuis les temps de Ménès, vient essentiellement de Manéthon, depuis le IIIe siècle avant notre ère. Les travaux de Manéthon n'ont pas survécu. Nous disposons seulement des commentaires de Sextus Africanus, 221 de notre ère, et de Zeb de Césarée, 264-340 de notre ère. D'après Eusèbe, Manéthon attribuait une grande antiquité à l'Égypte pharaonique, avec l'âge de l'antiquité de l'Égypte ancienne remontant à 36 000 ans, ce qui concorde avec les comptes rendus d'Hérodote. C'est en concordance générale avec d'autres découvertes de preuves et de récits, tels que ceux de Diodore de Sicile, Diodore, livre 1, section 24, et des documents d'Égypte ancienne connus sous le nom de Papyrus de Turin, un document égyptien original daté de la 17e dynastie, 1400 avant notre ère. Les preuves physiques soutiennent également cette antiquité lointaine de l'Égypte ancienne, en dépit du fait que beaucoup de preuves archéologiques de temps aussi éloignés soient ensevelies bien en dessous des niveaux actuels des nappes phréatiques, à cause du phénomène de la vallée du Nil montante. Les preuves restent dans de nombreux textes, temples et tombes d'Égypte ancienne qui corroborent les affirmations d'auteurs grecs et romains. Par exemple, les temples de toute l'Égypte font allusion à une construction bien antérieure à l'histoire dynastique. Les textes inscrits dans les cryptes des temples de Heth et Rou, à Thor, à Dendera, montrent clairement que le temple a été restauré durant l'ère ptolémaïque à partir de dessins qui remontent au roi Pépi de la 6e dynastie, 2400 avant notre ère. Les dessins eux-mêmes sont des copies de documents vieux de plusieurs milliers d'années, du temps des suiveurs d'Horus, c'est-à-dire les rois précédant Ménès ou Ménin. Le texte dit ce qui suit. La fondation vénérable à Dendera est indiquée dans des écrits anciens apposés sur des rouleaux de cuir à l'époque des suiveurs d'Horus à Mennéfer, c'est-à-dire Memphis, dans un coffret, à l'époque du seigneur des deux pays, Pépi. À cause de l'élévation des terres égyptiennes, comme expliqué antérieurement, plusieurs anciens temples égyptiens avaient besoin d'être rehaussés, comme le confirma Hérodote et les preuves tangibles visibles dans toute l'Égypte. Bien que quelques temples de l'ancienne Égypte aient été restaurés pendant la période gréco-romaine, ils furent reconstruits selon les plans, les symboles, les divinités, les illustrations, etc. de l'Égypte antique, que l'on trouve dans de nombreux temples et tombes à travers le pays, et ce, bien avant l'ère gréco-romaine. Troisième sujet, l'ère du lion et le sphinx. Le cycle actuel du zodiaque débuta avec l'ère du lion, 10948-8788 avant notre ère. Il est représenté par le grand sphinx de Gizeh, arborant une tête humaine et un corps de lion. Les preuves historiques, ainsi que matérielles, trouvées sur le site du sphinx, indiquent son âge reculé, malgré l'idée commune, mais sans fondement, qu'il fut construit à une période située entre 2520 et 2494 avant notre ère, durant le règne de Khéphren. Hérodote, qui écrivit en détail sur les pyramides de Gizeh et les pharaons constructeurs, dont Khéphren, n'a jamais attribué la construction du sphinx à Khéphren. D'autres auteurs de l'Antiquité qui écrivirent sur le sphinx ne l'ont jamais attribué à un pharaon en particulier. Une preuve matérielle importante concernant l'ancienneté du Grand Sphinx, est la stèle de l'ancienne Égypte, appelée communément la stèle de l'inventaire, qui a été trouvée à Gizeh au XIXe siècle. Cette stèle décrit des événements qui se sont déroulés durant le règne de Khéops, 2551-2528 avant notre ère, le prédécesseur de Khéphren, et indique que Khéops ordonna la construction d'un monument à côté du sphinx. Cela signifie que celui-ci était déjà là à l'époque de Khéops, et donc qu'il n'a pas pu être érigé par son successeur Khéphren, 2520-2494 avant notre ère. Puisque la stèle de l'inventaire contredisait les assertions des chercheurs occidentaux au sujet de Khéphren, responsable de la construction du sphinx, ils écartèrent la stèle, considérant que ses traits de style correspondaient en fait au nouveau royaume, 1550-1070 avant notre ère. Ce n'est pas une raison suffisante pour l'écarter, car de nombreuses stèles et textes de l'ancien royaume, 2575-2150 avant notre ère, furent copiés plus tard durant le nouveau royaume et personne n'a contesté leur authenticité. Il est pratique courante de recopier des documents anciens afin de préserver les connaissances pour les générations futures. En dépit de la clarté du texte de la stèle de l'inventaire, indiquant que le sphinx existait déjà quand Khéops construisit la grande pyramide, certains persistent à dire que Khéphren fut le constructeur du sphinx en se basant sur deux arguments très contestables. Premier argument, une stèle attribuée au pharaon Thoutmôsis IV, 1413-1405 avant notre ère, qui fut placée entre les pattes du sphinx. Dans ce long texte, certains prétendent que le nom de Khéphren y apparaît, bien que le texte contenant le nom soit illisible. Il s'agit au fond d'une tentative désespérée d'imposer le nom de Khéphren sur le site du sphinx. Deuxième argument, il existe une route entre le temple pyramide de Khéphren et le temple de la vallée, d'à peu près 500 mètres de long. Bien qu'il n'y ait aucune inscription sur le sphinx ou dans le temple, les académiciens occidentaux avancèrent que la présence de la route était la preuve suffisante d'un certain rapport avec Khéphren. Plus tard, des excavations mirent au jour un certain nombre de statues dans ce temple qui furent considérées comme ressemblant à la tête du sphinx. Toutefois, quand les profils des têtes des statues furent superposés au profil de la tête du sphinx, il n'y avait aucune correspondance. Même si nous cédons à ces faux arguments concernant un nom sur une stèle ou ces statues dénuées de liens, ou encore la présence de la chaussée, au mieux, nous aboutirons à la conclusion que Khéphren a pu être le dernier pharaon ayant restauré le sphinx avant Thoutmôsis IV, plus de 1000 ans après l'époque de Khéphren. Les preuves matérielles découvertes sur le site du sphinx soutiennent son ancienneté et son appartenance à l'ère zodiacale du lion. Le site d'origine où se trouve le sphinx était un plan légèrement incliné avec un affleurement de roches plus dures. Les principales caractéristiques du sphinx résultent des différentes conditions géologiques indiquées comme suit. Premièrement, la tête du sphinx a été sculptée dans cet affleurement de couches dures qui est résistante à l'action des éléments naturels. Deuxièmement, le corps du sphinx a été formé en retirant les pierres qui entouraient la future sculpture. Celui-ci était fait d'une couche de calcaire plus tendre, qui à son tour est constituée d'une alternance de strates plus dures et plus tendres. Celles-ci sont visibles sur le site et forment des stries résultant de l'érosion naturelle et se prolongent à 60 cm de profondeur dans le socle rocheux. Troisièmement, la base du sphinx ainsi que le fond de la carrière d'origine sont constitués d'une roche calcaire plus dure qui est résistante à l'action des éléments naturels. Étant donné que le corps du sphinx est situé dans une dépression, il faut moins de 20 ans pour la remplir et recouvrir entièrement le corps. Mis à part durant le siècle dernier, le sphinx a été recouvert de sable depuis l'époque où il a été créé, voici des milliers d'années. Par conséquent, le sphinx fut protégé de l'érosion due au vent et au sable. Toutefois, il y a une légère érosion d'environ 60 cm sur la paroi de l'excavation, autour du corps du sphinx, qui présente les mêmes caractéristiques que celles du sphinx. Donc, la roche et le sphinx furent taillés avant que ne survienne cette altération climatique sévère. Beaucoup de chercheurs se sont résignés au fait que l'érosion du corps du sphinx a été causée par l'eau. La question devient alors, quelle eau a pu causer ces motifs d'érosion particuliers? On doit écarter l'idée selon laquelle la nappe phréatique aurait provoqué une telle érosion, car elle se trouvait 9 mètres plus bas que son niveau actuel à l'époque de Khéphren. En d'autres termes, il est impossible que la nappe phréatique ait provoqué des rainures de 60 cm de profondeur dans le corps du sphinx et les parois de la carrière. Comme nous l'avons expliqué au début de ce chapitre, au cours de milliers d'années, l'inondation du Nil a déposé progressivement du limon sur le sol de la vallée. Chaque fois que le sol s'élève, le niveau de la nappe phréatique en fait autant. Par conséquent, la réfutation de la théorie de l'érosion du site du sphinx due à la nappe phréatique devient évidente. Il n'y a donc pas d'autre réponse valable que celle affirmant que l'érosion eut lieu à la fin de la dernière période glaciaire, entre 15 000 à 10 000 ans avant notre ère. Les géologues s'accordent à dire que l'Égypte fut sujette à de sévères inondations à la fin de la dernière période glaciaire. Un autre élément de preuve important concernant l'ancienneté du sphinx est l'extraction d'une carotte ayant été forée en face du temple du sphinx en ruine, situé en face du sphinx et fermé au public, qui a révélé la présence de granit rose à une profondeur de 16,50 m. Le granit n'est pas originaire du nord de l'Égypte et ne pouvait venir que d'Aswan, soit plus de 1600 km au sud. La présence de granit à une telle profondeur est une preuve supplémentaire que des activités de construction eurent lieu bien plus tôt que 3000 ans avant notre ère, quand le sol se trouvait 16,50 m au-dessous du niveau actuel. Pour résumer, les preuves matérielles et historiques accablantes dont nous venons de parler nous conduisent à la conclusion que Khéphren n'a pas et ne pouvait pas avoir construit le sphinx, mais qu'il fut l'un de ceux qui le restaurèrent. Bien entendu, les monuments de l'Égypte antique avaient besoin d'être restaurés régulièrement au fil des décennies et des siècles. Les preuves trouvées sur le site du sphinx de Gizeh sont la marque de l'Égypte antique de l'ère zodiacale du lion, il y a environ 13 000 ans. Plusieurs photographies illustrant le texte de ce sujet peuvent être trouvées dans la version digitale de ce livre, publiée en format PDF et e-book. Quatrième sujet, le calendrier égyptien. À présent, consacrons-nous à déterminer l'âge de l'Égypte antique en étudiant son calendrier. La connaissance approfondie des Égyptiens en astronomie, comme le démontre leur calendrier, est reconnue par Strabon, 64 avant notre ère, 25 de notre ère, qui écrivit ce qui suit. Ils, c'est-à-dire les prêtres égyptiens, ont révélé aux Grecs les secrets de l'année pleine que ces derniers ignoraient comme beaucoup de choses. Le calendrier égyptien, très ingénieux et très précis, se basait sur l'observation et l'étude des mouvements de Sirius dans le ciel. L'antique calendrier égyptien est ainsi appelé le calendrier sosiaque, c'est-à-dire qui a un rapport avec Sirius ou Sapt, l'étoile du chien. Les Égyptiens anciens savaient que l'année durait un peu plus de 365 jours un quart. La Terre met 365,25 636 jours pour compléter une révolution autour du Soleil. Il est important de souligner que les égyptologues modernes ont pu retracer 3000 ans d'histoire de l'Égypte antique uniquement grâce à la précision de l'année sociaque de 365 jours, 25 636. De plus, c'est le calendrier égyptien qui a permis aux étudiants d'histoire du monde entier de pouvoir estimer la date des événements dans tous les autres pays, ceux-ci n'ayant jamais eu un calendrier correct, voire aucun. Avec pragmatisme, les Égyptiens anciens utilisaient un calendrier composé de 12 mois, dont chaque mois contenait 30 jours. Afin de combler la différence entre 360 jours, soit 30 x 12, et 365,25 636 jours, et ainsi clore une année complète, ils effectuaient les ajustements suivants. 1. La différence de 5,25 jours à la fin de l'année égyptienne vient du fait d'ajouter 5 jours chaque année et un jour supplémentaire tous les 4 ans. L'année de l'ancienne Égypte commence actuellement le 11 septembre. Les 5 ou 6 jours supplémentaires commencent le 6 septembre. 2. La différence de 0,00636 jours, c'est-à-dire 365 jours, 25 636 moins 365 jours un quart, chaque année, oblige à ajouter un jour tous les 157 ans un quart, ce que les Égyptiens ont continué de faire jusqu'à aujourd'hui, en ajoutant un jour supplémentaire tous les cycles de 157, 314, 471 et 629 années. Ces ajustements effectués par les Égyptiens sont clairement visibles durant les 2000 dernières années si l'on compare le calendrier de l'Égypte antique avec le calendrier latin, comme nous allons l'expliquer à présent. Après sa visite en Égypte en 48 avant notre ère, Jules César commanda à l'astronome Sosigène d'Alexandrie d'introduire un calendrier dans l'Empire romain. C'est ainsi que le calendrier julien, composé de 365 jours par an et de 366 jours les années bissextiles, vit le jour. Le calendrier romain, ou julien, était littéralement taillé sur mesure pour un roi. Le premier jour de l'année correspondait au jour de couronnement du roi égyptien à la fin du jubilé annuel de rajeunissement. Pour plus d'informations, voir Mystiques égyptiens, chercheur de la voix, du même auteur. Cependant, le calendrier julien ne tenait pas compte du fait que l'année durait un peu plus de 365 jours un quart. La différence entre les 365 jours, 25 et les 365 jours, 25 636 de l'adoption du calendrier julien à nos jours est de 13 jours. Une telle différence explique la variation de 13 jours dans les observations annuelles de nombreux festivals chrétiens entre les églises orthodoxes et non orthodoxes. Ceci s'explique par le fait qu'un groupe a suivi le calendrier égyptien précis, tandis que l'autre a suivi le calendrier julien approximatif. Quand le calendrier latin fut adopté en 48 avant notre ère, le premier jour du calendrier égyptien était le 29 août. Maintenant, c'est le 11 septembre, soit une différence de 13 jours que nous venons d'expliquer à l'instant. Pour trouver la date de début du calendrier de l'Égypte ancienne dans le calendrier latin déficient, il faut prendre en compte la différence de 0,00636 jours, soit 365 jours, 25 636, moins 365 jours, 25, chaque année, entre le 29 août et le 21 juin. Le 21 juin correspond au solstice d'été, qui marque le commencement du calendrier de l'Égypte antique, qui marque à son tour le commencement du cycle sociaque. Le cycle sociaque égyptien commence avec le lever héliaque de Sirius sur l'horizon, en même temps que le soleil, où elle reste visible quelque temps, avant de disparaître avec le lever du jour. D'abord, nous trouvons une différence de 69 jours entre le 29 août et le 21 juin. En divisant ces 69 jours par 0,00636, le résultat est 10 849 années. Par conséquent, le 29 août de l'an 48 avant notre ère, le calendrier égyptien marquait au moins 10 897 avant notre ère, soit 10 849 plus 48. Comparons nos calculs du calendrier sociaque de 10 897 avec ceux du zodiaque. Comme indiqué précédemment, le cycle zodiacal actuel a commencé en 10 948 avant notre ère. La différence entre 10 897 avant notre ère et le début de l'ère du lion, 10 948 avant notre ère, est de 51 ans. En d'autres termes, en 48 avant notre ère, le calendrier de l'Égypte antique se trouvait au premier tiers du cycle d'une période de 157 ans. L'année 10 948 avant notre ère étant le commencement de l'ère du lion, elle coïncide avec les déclarations de tous les premiers auteurs grecs et romains tels que Platon, dont le recueil de dialogues indique que les canons de proportion de l'Égypte ancienne, pour les arts et l'architecture, n'ont pas changé durant les 10 000 ans qui ont précédé son époque, 428-347 avant notre ère. Il affirma ce qui suit. Que les dessins et les statues réalisés voici 10 000 ans ne sont pas spécialement meilleurs ou pires que ceux qu'ils font maintenant. Depuis l'occupation islamique arabe en Égypte, 641 de notre ère, ce calendrier a pris le nom de calendrier copte, bien qu'il fût développé des milliers d'années avant le christianisme. De nos jours, les Égyptiens suivent encore l'ancien calendrier égyptien pour quasiment tous les innombrables festivals annuels, l'agriculture, la météorologie et dans d'autres domaines, exception faite de quelques rares cas. Il s'agit de loin du calendrier le plus pratique et le plus précis utilisé dans le monde.
Merci d'avoir écouté cet extrait du livre « La culture de l'Égypte ancienne révélée », deuxième édition de Mustapha Gadala.